Bonjour, bienvenue à vous dans Babylone, le rendez-vous des savoirs et de l'usage du monde réservé aux curieux. Après une vague d'adhésion en 2004, puis les noms néerlandais et français à la Constitution européenne, l'Europe semble aujourd'hui un peu fatiguée. Et la crise financière en Grèce, qui pourrait gagner d'autres pays de l'Union, ajoute à cette lassitude. Pourtant, cela n'empêche pas les pays des Balkans occidentaux de rêver à l'intégration, Albanie, Croatie, Bosnie, Macédoine, Monténégro et Serbie, qui sont désormais dans les starting blocks de l'Europe. Mais le chemin est long et surtout de plus en plus compliqué. Quid donc des rapports entre Bruxelles et les Balkans occidentaux? Pour répondre à cette question, un balkaniste est notre invité aujourd'hui, Christophe Soliot. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes secrétaire général du CEIS, le Centre pour l'intégration européenne, qui est basé à Genève, mais aussi à Vienne et Sarajevo. Une Europe fatiguée, je disais. Est-ce que le terme vous convient, Christophe Soliot?
Oui, c'est un constat que malheureusement on doit partager encore aujourd'hui. Malgré l'introduction du traité de Lisbonne, un certain nombre de politiques, on peut mentionner entre autres la chancelière allemande Angela Merkel, souhaitent consolider, approfondir l'Union plutôt que poursuivre son élargissement.
En seconde partie de ce Babylone, nous entamerons la semaine sur le cerveau qui se déroule à Genève. Vous en avez peut-être déjà entendu parler avec Clara James, neuroscientifique et musicienne, qui nous expliquera quelles sont les dernières recherches en matière de musique. Babylone aujourd'hui avec Annick Chouin, Anne-Marie Rine, Nicole Corpato, réalisation Patrick Lenoir à Lausanne, Louisanne Zarieff à Genève, David Collin au micro. Au croisement des langues et des cultures, les portes de Babylone vous sont grandes ouvertes.
La géographie européenne est donc en train de changer sous nos yeux. Un nouvel État est né, le Kosovo, a déclaré hier.
De la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du Montenegro. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, sur le cap aujourd'hui, vous avez deux tâches, la Suisse et cette île des Balkans occidentaux qui demeure fondamentalement aux douanes de l'Albanie et du Kosovo.
Les Balkans occidentaux ont vocation à être dans l'Union européenne et nous le réaffirmons aujourd'hui très clairement, cela a été réaffirmé.
Deux tâches, la Suisse.
La crise dans les Balkans n'est pas seulement une question balkanique.
De la Croatie, du Monténégro, de la Serbie. Est-ce que l'Union européenne peut se permettre de ne pas les intégrer et de conserver cette idée de misère et du développement à l'intérieur de ses frontières, de la Croatie, de la Macédoine, de l'Albanie et du Kosovo qui n'est pas encore pour le coup un État reconnu.
Une carte sonore signée Bruno Seriba. Christophe Soliot est notre invité en première partie de Babylone pour nous parler des relations entre Bruxelles, l'Europe et les pays des Balkans occidentaux qui aimeraient bien aussi une place au soleil ou qui, en tout cas, ce qu'ils considèrent comme une chance, c'est-à-dire intégrer l'Union européenne. Annick Chouin, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a incité à vous pencher ainsi sur la question de l'adhésion des pays de l'ex-Yougoslavie?
Peut-être un soleil un peu voilé, on pourrait dire cela comme ça. Bon, ce qui m'a incité, ce sont des signes contrastés, voire contradictoires, qu'on peut lire notamment à travers la presse. D'un côté, vous l'avez dit, l'Union européenne semble quelque peu déprimée et tout occupée, comme le dit Angela Merkel, à régler ses problèmes internes, à approfondir l'Europe entre nous, peu encline à s'élargir. Et puis, chat échaudé, la Roumanie et la Bulgarie, une fois admises en 2007, n'ont pas tenu leurs engagements. Et d'ailleurs, tout récemment, c'est le FMI qui est venu à la rescousse des Roumains. De l'autre côté, alors là, c'est le soleil qui se montre. Positif donc. Alors, je vous rappelle que la Slovénie est membre de l'Union européenne depuis 2004. Et les Serbes, Monténégrins et Macédoniens n'ont plus besoin, depuis la fin de l'année dernière, d'un visa pour entrer dans l'espace Schengen. Alors, y compris donc en Suisse. Et puis la Suisse, oh là, là je rêve. La Serbie a déposé sa candidature en décembre dernier à Stockholm. Et enfin, le procureur général du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a rendu un avis favorable justement à la Serbie. Ratko Mladic et Goran Hadzic sont toujours en cavale, mais le TPY a décidé que la Serbie avait fait tribunal. Tout ce qu'il fallait. Exactement, le tribunal a décidé que la Serbie avait fait tout ce qu'il fallait. Et puis enfin, rappeler que la Croatie, face à l'Union européenne, Christophe Solio, est à bout touchant. On peut imaginer la Croatie membre de l'Union européenne pour quelle année environ?
Oui, je pense qu'il faut attendre une ou deux années, donc horizon 2012. La Croatie jouit d'un statut d'exception, on pourrait dire. Angela Merkel y a fait référence et d'autres aussi. Il semblerait qu'il y ait un accord au niveau de l'Union européenne pour faciliter l'accès de la Croatie assez rapidement. La Croatie est très engagée, a pratiquement clos presque tous les chapitres qu'elle doit négocier afin d'obtenir sa carte de membre. Ceci dit, c'est peut-être paradoxal, on en reparlera, la Slovénie, son voisin, bloque le processus, mais il est vrai, la Croatie est bien avancée dans ce processus.
Vous l'aurez remarqué, Christophe Sognon, on n'a pas énuméré tout à l'heure dans la liste des pays des Balkans occidentaux, le Kosovo, mais vous l'avez entendu quand même dans la carte sonore, ça n'était pas pour rien. Alors, il faut évoquer ou pas le Kosovo?
Oui, bien sûr. Alors, les Balkans occidentaux, eh bien, c'est un terme un peu barbare. C'est tout simplement pour éviter le terme de Yougoslavie. Pourquoi? Parce que la Slovénie est membre de l'Union européenne et dans les Balkans occidentaux, dans le jargon, disons, des diplomates de l'Union européenne, eh bien, on comprend l'Albanie, notamment, qui ne faisait pas partie de la Yougoslavie. Et il y a aussi, puisqu'ils sont sept, le Kosovo, qui, naturellement, pose des problèmes multiples, disons, à la communauté internationale et aussi à l'Union européenne. Et donc, c'est...
Le statut du Kosovo, dans ou pas la Serbie...
Mais certains l'ont pas reconnu encore, le Kosovo.
Alors, certains pays n'ont pas reconnu, effectivement, le Kosovo, donc certains pays membres de l'Union européenne. Et on peut ici faire un parallèle avec la situation de la Turquie, qui est en train de négocier avec l'Union européenne, bien que tous les pays de l'Union européenne ne souhaitent pas qu'elle devienne membre. Ici, ça pourrait être un peu une stratégie pour le Kosovo, bien qu'il y ait des résistances au sein de l'Union européenne. Et on peut imaginer avancer dans le statut, disons, dans les négociations. En premier, il faudra s'engager dans les premières étapes. On est loin d'envisager encore aujourd'hui, ou déjà aujourd'hui plutôt, le Kosovo comme membre de l'Union européenne.
Ça peut être une stratégie aussi par rapport à la Serbie, en l'occurrence.
Bien entendu. Mais aussi, il y a le précédent de Chypre. On va vouloir résoudre la question du statut du Kosovo avant que le Kosovo ne devienne membre de l'Union européenne. Ça, c'est cousu de fil blanc.
Alors, Christophe Solio, les pays de l'ex-Yougoslavie se présentent à l'Europe séparément. Stratégie, on dit, de découpage. Votre approche est celle de votre réseau, le CEIS, basé donc à Genève, Vienne et Sarajevo. Lui préconise une approche plus globalisante. Alors, selon vous, les Balkans devraient se présenter collectivement, en groupe?
Tout à fait. Alors, je ne suis pas le seul à défendre cette position. Naturellement, il y a un précédent. On pense au groupe de Visegrad, mais pas seulement. On pense aussi, et on en appelle à la cohérence de l'Union européenne, au critère de la coopération régionale, qui est une conditionnalité spécifique qui a été, parmi d'autres, qui a été donc ajoutée sur la liste des devoirs que doivent accomplir les pays qui font partie donc des Balkans occidentaux. La coopération régionale est quelque chose de très important. Il faut aussi savoir qu'en 1999, quand l'Union européenne réalise enfin qu'elle doit mettre sur pied un programme spécifique pour les Balkans, avec une approche régionale, il y a la création d'un côté du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est. Là, on évite le terme Balkans occidentaux, on emploie des mots nord-sud, donc des points cardinaux pour éviter, disons, des problèmes diplomatiques. Et de l'autre côté, c'est le processus de stabilisation et d'adhésion à l'Union européenne. Donc, normalement, ce processus devrait aller main dans la main, c'est-à-dire adhésion à l'Union européenne et coopération régionale. Or, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui? Deux choses principalement. Premièrement, qu'il y a des problèmes politiques qui n'ont toujours pas été réglés. Le protectorat, voire l'intégrité territoriale même de la Bosnie-Herzégovine. Et deux, la question du statut du Kosovo. Et ici, il faudra bien qu'il y ait eu un accord, une reconnaissance aussi
par ces différents pays. Sinon, on va assister à quoi ? Bien, on va assister à ce triste spectacle auquel on assiste déjà aujourd'hui. C'est la Grèce qui s'oppose à l'intégration de la Macédoine pour des questions de nom. Et ensuite, à cause de la baie de Pirane, mais pas seulement, la Slovénie qui s'oppose à l'intégration de la Croatie.
Oui, enfin, il y a de progrès là quand même.
Oui,
mais... Parce qu'ils ont réglé le problème de la frontière.
Plus ou moins réglé, mais il se trouve qu'aux dernières nouvelles, la Slovénie, à nouveau, pour des raisons qu'elle n'a pas voulu dévoiler pour le moment, bloque à nouveau donc, le processus d'intégration, c'est-à-dire la discussion des derniers chapitres que la Croatie doit négocier avec tous les membres des pays de l'Union européenne. On imagine bien que si la Serbie devient membre de l'Union européenne, si on continue dans cette stratégie, cette technique du salami, la Serbie va devenir membre de l'Union européenne avant le Kosovo. Vous imaginez bien qu'ils feront des pieds et des mains pour exclure à jamais le Kosovo de l'Union européenne, voire aussi poser des problèmes pour la Bosnie-Herzégovine. Donc une approche collective serait beaucoup plus en phase avec la logique même de l'Union européenne qui préconise la bonne entente entre ses membres.
Mais j'allais vous le dire, c'est quand même paradoxal, une région qui n'arrive pas à s'entendre, qui veut entrer dans un réseau fait pour s'entendre.
Oui, c'est un paradoxe que l'Union européenne doit résoudre. À cela s'ajoute qu'il y a des problèmes politiques qui sont importants. Je pense essentiellement à la Bosnie et naturellement au Kosovo. C'est une pomme de discorde et mieux vaut la régler avant plutôt qu'après, parce qu'après ce sera, honnêtement, je ne vois pas comment ce sera possible. Je pense qu'il peut y avoir une marge de manœuvre sur certaines conditionnalités. On exige que ces différents États soient pratiquement parfaits. Si on devait aujourd'hui intégrer des pays qui sont entre-temps membres de l'Union européenne, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme la Grèce et d'autres pays encore.
Allez, la Roumanie, la Bulgarie.
Voilà, ils n'arriveraient jamais à satisfaire aux conditions qui sont maintenant imposées par l'Union européenne aux Balkans occidentaux.
Alors ça c'est le côté vu de l'Europe, hein, les conditions pour l'Europe. Pour les pays qui vont profiter finalement de cette entrée ou qui pourraient profiter de manière collective de cette entrée, en quoi ça leur serait profitable à part peut-être de régler plus facilement leurs relations ou s'entendre tout simplement?
Oui, écoutez, je crois que pour ces différents pays, il y a quelque chose de... Bon, il y a des intérêts naturellement économiques, c'est évident. Mais il ne faut pas perdre de vue quelque chose qui relève du culturel et aussi d'où ils viennent. Alors, bien entendu, on pourrait argumenter ici l'obtention d'un visa facilité, qu'on ait enlevé la nécessité des visas, pas pour tous les pays encore, mais pour
l'espace Schengen,
pays, c'est un signal que les gens attendaient. Parce que certains politiques, certains mafieux pouvaient, eux, sans problème aucun, voyager à peu près librement dans toute l'Europe. Mais le simple citoyen, ce n'était pas possible pour lui. Ça, si vous voulez, c'est une intégration au niveau de la vie quotidienne. Mais vous ne pouvez pas enlever de la tête des gens qu'il y a un projet merveilleux qui existe en Europe, c'est l'Union européenne. Jamais dans l'histoire de cette petite planète, un empire aurait imaginé avoir une telle étendue et naturellement, on souhaite en faire partie, d'autant plus que bien avant les pays d'Europe centrale, la Yougoslavie était à deux doigts de devenir membre à l'époque de la Communauté économique européenne. C'était à la fin des années 1980. Et quelque part, on a enlevé à l'époque un pays ce rêve qui était à portée de main. Les gens, à l'époque, n'avaient pas besoin de visa. Ils voyageaient librement à Trieste pour acheter des jeans et des mocassins, à Saint-Anton pour aller skier et à Ancône et Naples pour y faire leurs emplettes. Cette époque-là, quelque part, à cette époque-là, la Yougoslavie se sentait déjà comme faisant partie de l'Europe. Il n'y avait pas de retour en Europe, comme ce fut le cas pour les pays d'Europe centrale. La Yougoslavie faisait déjà partie de l'Europe et quelque part, ils se sentent en porte-à-faux par rapport à ça. Alors c'est vrai, la Yougoslavie n'existe plus. Ce sont des républiques qui sont devenues indépendantes, autant d'États. Mais ce désir, si vous voulez, d'Europe est bel et bien présent. Et naturellement, vous avez le Conseil de l'Europe, mais on aimerait plus. Le meilleur parti en Europe, c'est l'Union européenne.
Mais Christophe Soliot, justement, un de nos confrères, je crois d'ailleurs, dans l'espace ex-yougoslave, je ne sais pas de quel pays, parle de Yougosphère. Oui. Alors, nostalgie ou utopisme ?
Non, réalité. Ça, je crois que c'est important. C'est Tim Judah qui travaille depuis quelques 20 ans, je crois, pour The Economist, et qui parle de quelque chose de très important qui correspond à ce que l'on observe sur le terrain. Dans les milieux économiques, dans les milieux artistiques aussi, il est tout à fait courant d'aller écouter, si on est à Belgrade, par exemple, d'aller écouter des concerts à Sarajevo, ou pour, je pense, à Bojan Suvica Pasic, comme son nom ne l'indique pas, il est de Belgrade, mais il vit depuis très longtemps à Paris, d'aller présenter des concerts à Belgrade avec Damir Imamović de Tuzla. J'ai une amie, Sheila Kamerić, qui est artiste entre Sarajevo et Berlin. Elle travaille régulièrement avec des artistes de Tirana et de Pristina, mais aussi de Ljubljana et de Zagreb. Personnellement, j'étais engagé dans des réseaux justement citoyens qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme et qui s'opposaient au nationalisme. Et durant toute la guerre et dans l'après-guerre, on a maintenu vivant un réseau de relations avec des personnes qui venaient aussi bien de Tirana que de Pristina, que de Skopje, que de... bref, je pourrais vous citer toutes les capitales. Et quelque part, ces gens-là ont gagné, pour finir, parce que... Alors, et on a ça pas seulement en ex-Yougoslavie, vous avez ça aussi à Berlin, par exemple, où Balkan Beats, du DJ Soko, fait un tabac. Pourquoi ? Parce qu'il permet non seulement... Parce qu'il y a aussi une curiosité pour les gens qui n'ont pas vraiment connu, qui étaient petits enfants lorsque la Yougoslavie existait. Il y a un désir de retrouver ses origines. Et puis il y a aussi des gens qui ne se reconnaissent pas ni dans la Croatie, ni dans la Bosnie, ni dans la Serbie, qui sont des Yougoslaves. Et ce qui fait fureur à Berlin, et pas seulement à Berlin, eh bien, c'est les Balkan Beats, et ce sont des booms où les gens, justement, croates, bosniens, serbes, se retrouvent et font la fête et parlent la même langue.
La yokstalgie, alors. Il y a la hostalgie, maintenant c'est la yokstalgie.
Oui, alors, il y a un côté, effectivement, il y a quand même un côté un peu mode, mais c'est à prendre au second degré aussi.
Tinto vintage.
Il y a aussi, tout à fait, il y a aussi ça. Et ça fait un tabac d'enfer et on va en reparler. Mais c'est vrai que ça permet de renouer des liens. Ça permet aussi, il faut le dire très clairement, de ridiculiser les nationalistes qu'il fallait surtout pas prendre au sérieux. Le pire en ex-Yougoslavie, c'est quand on commence à prendre au sérieux ceux qui mentent.
Alors, de façon un petit peu rapide, au niveau politique dans l'espace ex-yougoslave, ça coince entre les pays. Au niveau des populations, il y a des échanges qui ont toujours eu lieu, on l'a bien compris. Au niveau de l'Union européenne, il existe des programmes régionaux, on va dire bilatéraux, un peu comme avec la Suisse. Hein, chacun s'arrange avec sa chacune ou son chacun. Mais alors, par contre, et vous le disiez, adhérer à l'Union devient de plus en plus compliqué technique. C'est le parcours du combattant. Le CEIS, dont vous êtes le secrétaire général Christophe Soliot, le Centre pour l'intégration européenne, je rappelle, Genève, Vienne et Sarajevo, lui propose une simplification. Sans entrer dans les détails, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'il faudrait changer selon vous pour cette entrée ?
Simplification n'est peut-être pas le terme. Il faut beaucoup plus de souplesse, je dirais, aussi au point de vue idéologique. Alors, juste deux points. J'aimerais juste revenir sur un aspect que vous avez mentionné et qui est juste. Encore en 2004, pour ce qu'on appelle le Big Bang, l'intégration des pays d'Europe centrale, eh bien, on se contentait d'exiger l'adoption des normes européennes. Pour les viennent ensuite, on exige non seulement l'adoption, mais la mise en œuvre, et puis une mise en œuvre pratiquement parfaite. Donc, c'est vrai que les critères sont devenus beaucoup plus pointus, et on est devenu beaucoup, beaucoup plus exigeant, et quelque part, mais tu vois la place des élites des différents pays des Balkans occidentaux, ils se disent mais pourquoi on nous impose ces critères ?
Oui, la barre est très haute.
La barre est très haute. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est là où nous, on aimerait un peu plus de souplesse. Il faut imaginer que face à une crise économique, un certain nombre de normes que les différents États doivent adopter pourraient être remises en question et que d'autres modes de faire, notamment sectoriellement plus proche de l'expérience de ces pays yougoslaves, notamment dans le domaine de la santé et des prestations offertes aux citoyens. Donc que certains modes de faire qui existaient à l'époque puissent être plus adaptés au final que des normes qui sont imposées de l'extérieur et qui souvent ne sont pas adaptées ni au pays, ni, c'est mon point,
oui, c'est
ni
un modèle
à la
figé.
Situation, voilà. Et si on constate justement son analyse d'un peu plus près ce qui se passe en République tchèque, par exemple, on voit que certaines entreprises qui n'ont pas été privatisées s'en sortent très très bien justement dans la crise actuelle. Donc il faut faire preuve d'innovation. Ce qui est important naturellement, c'est le dynamisme, c'est une société démocratique, mais c'est essayer d'innover, et c'est là, je dirais, le défi de l'Union européenne dans les Balkans. Il faut peut-être revoir certaines normes que l'on impose de manière un peu trop dirigiste, introduire un peu plus de souplesse et de dynamisme. Et c'est là où les Balkans peuvent non seulement adopter, c'est-à-dire télécharger des normes, mais aussi contribuer, et pas seulement dans le domaine culturel, je pense aussi au niveau, au plan économique. Et là, je pense que l'Union européenne pourrait arriver moins avec des normes de Bruxelles et plus avec des expériences concrètes de la Catalogne, par exemple, c'est-à-dire de régions où il y a un dynamisme fort qui implique tous les acteurs de la société. C'est mon dernier point. Il importe que non seulement des élites, des technocrates dans les Balkans occidentaux s'entendent avec ceux de Bruxelles, il importe d'impliquer dans le processus d'intégration européenne des segments beaucoup plus larges de la société, y compris la société civile.
L'imagination au pouvoir, Christophe Soliot, c'est voilà. Ça. On va
la
descendre
révolution.
Dans la rue. Eh bien, ça nous ramène aux jeunes dont vous parliez tout à l'heure. On l'a bien compris, vous travaillez avec les eurodéputés. D'ailleurs, vous faites des fois office un peu de lobby, vous faites pression. Vous travaillez à l'intérieur des pays des Balkans occidentaux avec la société civile, les artistes, les écrivains, etc. Et puis, il y a des liens avec Genève. Récemment, par exemple, Sarajevo, Genève a été réactivé. De quelle manière ?
Oui, écoutez, c'est presque une vieille histoire. C'était durant la guerre, un programme du festival La Bâtie, avec à l'époque, il s'y trouvait donc André Valdis, et il y avait à prélever Sir Victor Durchaille, et ils avaient fait tout un programme amitié de Sarajevo. Et récemment, André Valdis a eu l'occasion de retourner à Sarajevo, et j'ai facilité les retrouvailles avec Haris Pasovic, qui est directeur de théâtre avec lequel ils avaient collaboré donc durant la guerre. Et on a récemment accueilli Haris Pasovic et on lui a donné la possibilité aussi de rencontrer un certain nombre d'acteurs du théâtre notamment, et pas seulement d'acteurs culturels à Genève.
Oui, Anne Bizong notamment, Hervé Loachmol à côté,
fait.
Et puis Anne Bruchweiler du
oui.
Forum Mérin, donc
voilà.
La comédie Mérin
et
la France même.
Voilà, on espère que et on pense effectivement qu'il y aura des possibilités de réactiver donc ces relations et que des projets naîtront de cette rencontre. Voilà.
Il y a un projet à Sarajevo d'une salle, je crois d'ailleurs, qui...
Oui, alors ça c'est...
Et là, la Suisse pourrait peut-être.
C'est un projet ambitieux de Haris Pasovic qui souhaite effectivement...
C'est un projet architectural d'ailleurs. Oui.
Voilà, c'est un projet architectural et il se pourrait que ce projet eh bien, se concrétise et que la ville de Genève y participe, mais ça, c'est pas à moi de le décider. Mais c'est vrai que c'est intéressant et tout à fait symbolique de voir... Alors, le côté politique est toujours là, mais c'est vrai que les artistes ont à quelque chose à se dire, et en tant que créateur aussi. Et ce sera intéressant de voir quel sera le suivi de cette réactivation, en quelque sorte, de ces amitiés, qui sont des amitiés importantes, parce que ce sont des amitiés très fortes qui ont été nouées en temps de guerre, et ça marque les personnes, et on reste fidèle à ces amitiés-là. Et c'est aussi un peu le lien que j'ai, je pense, avec, entre autres, la Bosnie, mais pas seulement, et aussi la même expérience du côté d'André Valdis.
Ouais. Et je rappelle, enfin, aux auditeurs qui vous connaissent peut-être, que vous êtes entré dans l'espace ex-Yougoslave à travers la littérature, d'ailleurs.
Oui,
c'est votre point fort, Christophe Solio. Et juste encore...
C'est-à-dire
parce que d'abord, Christophe Solio, il a fait un master, parce qu'on croit qu'il est politologue, mais pas seulement, il a fait un master autour de Lou Andrea Salomé, un autre autour de Herbert Marcuse et Alain Touraine. Et puis, il aime la littérature, il fréquente beaucoup les littéraires. Et puis, vous stimulez la production de livres une fois par année. Le CEIS publie le livre d'un jeune de des Balkans occidentaux.
Oui, voilà. Tout à fait. Alors, on a...
L'Europe du Sud-Est.
Voilà.
L'idée, c'est quoi?
C'est notre ambition. Alors, on a publié... Alors, l'ambition est la suivante. C'est vrai qu'on entretient depuis longtemps des relations intellectuelles aussi avec la jeune génération. Et on souhaite pas seulement inviter ces gens-là lors de nos manifestations, conférences, séminaires ou de les accueillir dans des publications collectives, mais de leur donner la possibilité de faciliter en quelque sorte une expérience professionnelle et d'avoir
leur permettre d'écrire
premier livre publié. Et de manière plus ciblée, nous avons un programme qui concerne de manière spécifique des intellectuels qui formés en Europe occidentale en quelque sorte ont fait le choix de retourner dans les Balkans occidentaux, on publie une thèse de doctorat revue, et ce sera le cas avec un premier livre de... on a déjà publié un livre l'an dernier, mais on va publier cette année-ci, la chose est pratiquement conclue, un livre de Damir Arsenevich de Tuzla, et qui est une analyse de la poétique, donc de la poésie en Bosnie-Herzégovine, où il démonte, décortique, critique différentes productions poétiques nationalistes ou antinationalistes. J'en dis pas plus.
Après Tito, justement.
Tout à fait. Alors, avant et après, il faut rappeler que Karadzic, qui passe ses jours maintenant dans une prison à Schmendingen, donc dans les Pays-Bas, et dont le procès a lieu devant le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, était à ses heures poète, et donc il y a matière
cette poésie, alors ça promet, oui.
Mais alors il y a d'autres.
C'est aussi ça.
Céline fut écrivain.
Voilà, l'intérêt aussi, c'est justement qu'il prend en considération Damir Arsenevich, des poètes de la nouvelle génération qui se trouvent parfois engagés dans des milieux justement citoyens, alternatifs, y compris gays et queer, et donc on a quelque chose de très dynamique en prise avec la création artistique, y compris dans les milieux qu'on pourrait qualifier d'autonomes ou d'alternatifs. Et on a là une confrontation très, très, très intéressante.
Alors, à compris, de toute façon, c'est un ouvrage critique.
Hein. Oui.
Alors, Christophe Solio, vous aussi, vous avez écrit de nombreux articles, livres souvent en anglais, mais avec une bonne nouvelle apparemment à la clé, puisque un recueil de ces textes en français va bientôt être publié. Ça s'appellera Rhapsodie balkanique, aux éditions de l'Harmattan. Ça va paraître en septembre
mi-septembre. Voilà.
Voilà, alors on se réjouit de pouvoir vous découvrir en français dans le texte.
Je vous remercie.
Grand merci à vous. Vous restez bien sûr à l'écoute de Babylone, le temps d'une petite pause musicale, et puis on se retrouve pour parler de cerveau et de musique. Voilà la musique de l'ensemble Skaros, Uri Vacha, c'est un ensemble d'Albanie du Nord. Vous écoutez Espace 2, Babylone, voici la seconde partie de cette émission. Voilà, des sons de baleines, visiblement pour nous mettre un petit peu dans le cerveau, un son étrange et pour voir comment nous allons réagir. Eh bien, nous allons réagir en accueillant sur ce petit plateau Anne-Marie Rine et Clara James. Bonjour à vous deux.
Bonjour David.
Clara James, vous allez ouvrir ce soir la série des conférences de la Semaine du Cerveau à Genève. Vous êtes neuroscientifique, maître assistante à l'Université de Genève et vous allez parler de musique. La musique, apparemment, vous connaissez plutôt bien, même dans la pratique. Hein.
Oui, j'ai des antécédents de musicienne professionnelle et je dois avouer que ça joue un rôle très important dans mes recherches, même si c'est vraiment sur un autre plan qu'on travaille. Donc j'étais violoniste. Et je dois avouer que ça me guide pas mal, mais il ne faut pas toujours le dire dans le milieu scientifique, évidemment.
Ce n'est pas compatible d'être artiste et à la fois scientifique.
Moi, je pense que oui. Einstein jouait du violon, mais il ne savait pas compter, apparemment.
Anne-Marie-Hélène.
Oui, alors Clara James, les liens entre musique et cerveau, c'est intéressant, bien sûr. Il y a longtemps qu'on les connaît, mais c'est un sujet de recherche assez récent, finalement. Comment ça se fait que, alors qu'on sait depuis en tout cas un siècle qu'il y a des aires cérébrales spécialisées, pourquoi on ne l'a pas étudié sérieusement avant?
Parce qu'on n'avait pas les dispositifs pour. Hein. C'est vraiment avec la naissance de toute l'imagerie cérébrale que maintenant on peut regarder, si vous voulez, c'est une terminologie un peu bizarre, mais regarder ce qui se passe dans le cerveau lors des activités comme écouter de la musique ou parler ou encore autre chose. Le seul accès qu'on avait, c'était les lésions cérébrales, d'étudier des gens qui avaient donc, pour simplifier, des endroits détruits, soit par maladie, soit par un accident dans le cerveau et observer par exemple que tout d'un coup ces gens-là ils pouvaient plus apprécier la musique ou plus parler ou plus bouger d'un côté ou des deux et tout ça c'était donc par déduction logique qu'on a pu tirer des conclusions par rapport au cerveau mais vraiment de l'étudier c'est quand même à partir des années 80 avec la mise en place d'un appareillage de plus en plus sophistiqué comme le scanner IRM, imagerie par résonance magnétique, et d'autres dispositifs qui nous permettent d'étudier à la fois la fonction du cerveau, donc en fait faire des images du cerveau lors l'exécution d'une tâche précise, ou bien encore étudier la structure, la morphologie du cerveau. Et les deux éléments sont en lien étroit avec le comportement de l'homme.
Alors, il y avait un autre argument qui tendrait à supposer que la musique a un siège dans le cerveau, c'est le fait que c'est universel, la musique. Et ça, c'est important pour vous. Vous travaillez aussi là-dessus.
Je ne travaille pas vraiment dessus, mais je fais partie d'un groupe de chercheurs qui pensent qu'il y a eu un précurseur commun au langage et à la musique, qui explique à la limite aussi sa présence ici. Sa fonction était, de mon point de vue, et aussi par exemple celui de Darwin et de tout un groupe de chercheurs de nos jours, que sa fonction principale était la communication émotionnelle. Ceux qui étaient mieux à ça, qui comprenaient mieux, plus rapidement, avaient donc une chance accrue de survivre. Et la suite est logique est simple à capter. Donc, comme ça, c'est inscrit dans nos gènes, donc dans notre cerveau, la capacité d'apprendre et d'apprécier la musique.
Et ça aurait un lien avec le langage, parce qu'il y a des aires réservées à la musique qui ne sont pas loin des aires du langage. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, dans ce sens-là, un lien entre langage et musique, Clara James?
Absolument. Donc, s'ils ont des racines communes, ils ont aussi des racines communes dans le support neuronal, dans les aires du cerveau qui véhiculent ces aptitudes. Et il y a une étude fort intéressante effectuée par Brown et Allier, appelé musique et langage côte à côte dans le cerveau. Ils ont fait produire des phrases langagères et des chanter des mélodies à leur sujet. Et quand on observe les activations cérébrales, donc les parties du cerveau qui sont actives lors de cette tâche, on peut observer d'abord, première chose, un chevauchement. Deuxièmement, des parties propres pour chaque faculté. Et surtout, pour la plupart des activités langagères, c'est plutôt l'hémisphère gauche, le côté gauche du cerveau qui est actif. Et la musique s'est plutôt emparée de l'autre côté. Donc, de mon point de vue, il y avait ce réseau commun aussi dans le cerveau à l'origine, où chaque faculté a trouvé son propre support une fois que musique et langage étaient de plus en plus des facultés séparées. Voilà, ça c'est mon point de vue.
Vous avez parlé d'émotion tout à l'heure. La semaine du cerveau à Genève cette année a choisi le thème du cerveau créatif. On va beaucoup parler d'émotion. Bien sûr, avec la musique, ça semble clair, mais c'est quand même pas si simple à expliquer. Quelle est en fait la relation entre le cerveau, les émotions, la musique? Comment est-ce que tout ça se met ensemble? Parce que la musique, c'est aussi une chose très technique au départ.
Pour la produire, oui. Mais ça, c'est une chose de nos jours, parce que dans les cultures plus primitives, la musique est à la portée de tout le monde. Et c'est même un peu dommage qu'on perd ça de nos jours, surtout dans la musique classique, mais même aussi dans la musique pop, il faut quand même une éducation tellement poussée pour en arriver là. Tandis qu'à l'époque, la musique, elle appartenait à tout le monde.
Spontanée, presque.
Absolument, naturel. Mais observer un enfant, dès qu'il tient sur les jambes, quand il entend de la musique, il commence à bouger dans le rythme ou à faire des bruits avec les bonnes fréquences. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce point primordial qui est l'émotionnalité dans la musique. C'est sa raison d'être. Et ça va avec tout ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Donc, c'était la communication émotionnelle, communiquer le danger, communiquer l'amour, communiquer où se trouve la nourriture, toutes ces choses-là sont porteurs d'émotions et donc importants pour la survie. Du coup, avec l'évolution de l'espèce humaine, cette fonction principale dans l'interprétation de son complexe, elle est toujours restée là. Et maintenant, évidemment, il y a cette discussion. Oui, le langage, c'est clair. Hein. Si vous voulez traverser la rue, qu'il y a une voiture qui arrive, je dis « arrête, je vous sauve peut-être la vie. Si à ce moment-là, je chante, je ne vais pas vous sauver la vie. »
C'est peut-être un petit peu long. Oui. Si vous entamez une symphonie, ça va être un peu long. Oui.
Oui, surtout, bon, si c'est encore le cinquième de Beethoven, peut-être qu'on s'arrête. Mais je veux dire, c'est pour ça aussi qu'il y a tellement de discussions autour, parce que de nos jours, la valeur de survie de la musique n'est évidemment pas claire du tout. Elle ne sert à rien, strictement parlé.
Elle produit des émotions, alors.
Mais elle produit des très fortes émotions, et ça, c'est lié à ses origines phylogénétiques, à la mise en place de l'espèce humaine, où l'interprétation des sons était jadis primordiale pour la survie. Et puis il y a aussi un courant dans la psychologie expérimentale, mené par exemple par Steven Pinker de Harvard en États-Unis, qui dit non, la musique c'est un produit fortuit d'autres facultés cognitives, c'est un peu comme il a dit ça, hein, comme la pornographie, comme la consommation de sucre ou de graisse.
Un peu par hasard. Quoi.
Donc, il n'y a pas de valeur adaptative. De nos jours, non. Mais dans son origine, dans sa genèse, absolument oui. Donc, on a parlé de l'omniprésence, premier argument, omniprésente dans toutes les sociétés, les aspects développementaux, la rapidité avec laquelle les enfants apprennent à comprendre la musique, elle est étonnante, comme pour le langage. C'est plus vite qu'on pourrait expliquer par un début tabula rasa.
Elle est instinctive.
Il y a un pré-câblage pour la musique comme pour le langage. Et un troisième élément, c'est donc cette grande émotionnalité. On ne peut pas dire que quelque chose qui peut nous émouvoir jusqu'aux larmes n'aurait pas eu un but dans notre genèse, dans notre phylogénèse.
Quelque chose à voir avec l'empathie, voire avec ces travaux maintenant sur les neurones miroirs, du fait qu'on peut comprendre ce que veut l'autre, ce que pense l'autre, se mettre à sa place.
Oui, c'est aussi une façon pour communiquer très fortement avec l'autre, sur un plan à la limite plus direct que par le langage. l'évocation des émotions par la musique, elle est instantanée, puis capter tout notre organisme, et par ailleurs aussi augmenter la respiration, le rythme cardiaque. Il y a eu une étude que j'aimerais citer, où ils ont pris des gens et ont dit « Amenez votre pièce favorite, la pièce qui vous fait pleurer, qui vous fait trembler. »
Musicale, donc.
Musicale. Mm-hmm. Excusez-moi, oui. Ma monde consiste de ça, donc j'évite de le dire. J'oublie de le dire. Donc ces gens-là sont venus et puis on a enregistré leurs activités cérébrales. Et intéressant sur le plan de la science, leur situation contrôle, c'était les pièces des autres, donc aussi des pièces musicales. Et quels endroits étaient actifs? Les mêmes endroits qui sont actifs lors de la consommation de drogue, que quand on veut l'amour, quand on mange. Donc vraiment des choses phylogénétiquement anciennes.
Qu'est-ce que vous dites toujours phylogénétique?
Phylogénèse, ouais. C'est l'évolution de l'espèce.
D'accord.
Pourquoi nous avons deux bras, deux jambes, pourquoi on parle, comment l'espèce humaine est sortie de sous toute cette cascade de transformation dans le monde animal dont nous faisons partie.
Et alors là, quand vous, les gens apportent leurs pièces et que vous voyez quoi? Des choses qui s'allument comment ça se passe?
Ça, c'est une très bonne façon. C'est comme ça qu'on parle mais dans notre milieu. Donc, les endroits qui s'allument sont les mêmes que pour d'autres stimuli euphoriques. Et ça lie donc fortement aussi sur le plan de la genèse de l'espèce humaine, la musicalité avec d'autres facultés qui sont biologiquement importantes, qui font que nous, on s'adapte le mieux à la vie et qu'on a donc une chance accrue de survivre et de se reproduire.
Oui, vous parlez des émotions, bien sûr, il y a ça. Vous parlez des méthodes pour étudier la musique. Est-ce que parmi d'autres travaux que vous avez faits, vous avez aussi étudié l'aspect un peu complexe de la musique? C'est-à-dire que oui, la musique, c'est fait de beaucoup de choses. Il y a de la mélodie, de l'harmonie, du rythme, de l'émotion, de la motricité pour ceux qui jouent.
Tout à fait. En fait, ça, c'est mon domaine de travail, de recherche. Moi, je m'intéresse à comment... Parce qu'on a donc dit ensemble, on a conclu qu'il y a donc une base commune innée à la musicalité humaine. On est tous des musiciens. Maintenant, ces facultés innées ne sont pas statiques. Et mon travail, mes recherches portent sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire comment le cerveau se transforme quand on pratique intensivement la musique. Donc la plasticité cérébrale chez le musicien expert. Et évidemment, puisqu'on est tous musiciens, pour montrer qu'eux, ils sont différents, il faut aller dans le subtil, parce qu'ils s'entraînent à longueur de jour, sur le plan moteur, sur le plan auditif, sur le plan émotionnel de l'expression, etc. Donc, basé aussi sur mes connaissances musicales, j'ai fait créer déjà pour une première recherche des mini-pièces musicales pour piano dans lesquelles j'ai inséré des toutes petites anomalies. Et j'ai exposé un groupe d'experts sur l'anomalie d'ailleurs sur le plan harmonique et aussi rythmique, ces deux volets différents que j'ai étudiés. Et pour l'harmonie, donc, il y a une mini-erreur qui n'est pas du tout une dissonance, qui est juste une petite erreur grammaticale pour celui qui connaît vraiment à fond la musique. Et j'ai vu des réponses d'abord beaucoup plus fortes chez les musiciens, mais aussi vraiment dans des endroits où il n'y avait pas d'activation chez les non-musiciens. Dans l'imagerie cérébrale, on travaille toujours par comparaison. Hein. Donc on compare les aires cérébrales utilisées par les non-musiciens et par les musiciens quand ils sont exposés à ces mini-erreurs, à ces anomalies. Et on voit qu'il y a que des... Quand on fait ces comparaisons, il y a donc une grande partie commune, parce qu'on est tous des homo sapiens, mais les musiciens, en réponse à ces mini-fautes, avaient des réactions très fortes dans l'hémisphère droite, dans des parties du cerveau, à nouveau, qui sont anciennes. Donc la boucle est un peu bouclée.
Est-ce que ça peut activer des choses comme ce qu'on appelle l'oreille absolue, par exemple? Ça peut activer des zones du cerveau pour des musiciens ou des gens qui ont une sensation de la musique peut-être plus pointue, plus aiguë, plus juste?
L'oreille absolue est une faculté complètement à part, qu'on observe chez les musiciens parce que les autres, ils n'ont pas eu la chance de le mettre en place, mais ils ont peut-être donc le don. C'est tout à fait possible que beaucoup de gens ont ce don, mais puisqu'ils ne sont pas en contact intensif avec la musique, ils ne vont pas le développer. C'est donc juste qu'on peut identifier exactement les fréquences d'un ton de musique. C'est autre chose que la musicalité en tant que telle.
Vous allez participer à la Semaine du cerveau, Clara James, avec un collègue qui lui s'occupe plutôt d'émotions, alors vraiment, et qui a envie de parler du langage, si j'ai bien compris. Donc, on boucle un peu la boucle, là. Vous avez ces précurseurs du langage que vous décelez dans la musique vont se retrouver dans des pratiques émotionnelles ou de communication.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me réjouis, parce que je pense qu'ensemble, on peut faire, pas le tour complète, mais quand même un grand bout du cercle. Donc avec Didier Grandjean, j'espère qu'ensemble, on pourrait faire face aussi au public, aux questions qui pourraient surgir, ayant chacun son domaine de spécialisation par rapport à musique et émotion et cerveau.
Pardon. On parle du cerveau créatif, ça vous convient, le titre de ces conférences? Parce que finalement, on a l'impression que le cerveau, il est créatif dans tout ce qu'il fait.
Oui, absolument. Donc, c'est toujours bon.
À propos de langage et de musique, hein, je voulais juste noter qu'il y a un livre qui vient de sortir de Bernard Le Chevalier chez Odile Jacob. Ça s'appelle « Le cerveau mélomane de Baudelaire ». Et ça montre que Baudelaire avait un rapport à la fois évidemment à la poésie, au langage très particulier, et à la musique aussi très intense. Et ça peut créer, j'imagine, des choses intéressantes à analyser pour ses réflexions sur la musique et voilà, notre façon de percevoir la musique ou de la vivre à l'intérieur de notre cerveau.
Tout à fait. Ce thème évoque des réverbérations chez des gens très différents aussi. Par exemple, la philosophie s'intéresse à ce genre de problématiques.
Mm-hmm. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que cherche la philosophie là-dedans? Sur quoi? Sur les perceptions?
Oui, surtout l'importance de cette musicalité. Pourquoi elle nous émeut tellement?
Comment elle nous constitue?
Oui, mais moi je ne suis pas philosophe. Je crois qu'il y a même 180 degrés entre ce que je fais, même si je m'intéresse à ça, mais c'est vraiment en dehors de mes activités professionnelles.
Ce que vous précisez peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre de Le Chevalier, mais c'est que Baudelaire a eu des problèmes cérébraux à la fin de sa vie. Et peut-être que là, on a pu déceler certaines choses, et ce n'est pas le seul. Hein. Il y a des gens célèbres liés à la musique qui ont eu des dégénérescence cérébrale ou des difficultés.
Ouais, le plus fameux pour moi, en tout cas, c'est évidemment Maurice Ravel, le grand compositeur impressionniste, qui à partir d'un certain âge a eu une aphasie progressive. Donc, il avait de plus en plus de problèmes de comprendre et d'exprimer en langage. Et pendant le début de cette maladie, il a écrit le Boléro. Il y a eu des spéculations qui restent complètement hypothétiques, mais qui sont intéressantes, que dans ce Boléro, puisque l'aphasie, la graphie qu'il avait concernait plutôt le côté gauche de son cerveau. Donc, en conséquence, il aurait écrit le Boléro avec le côté droit. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup il joue beaucoup avec le timbre dans cette pièce. Et le timbre est censé être traité par l'hémisphère droite. Donc, il y a quand même un petit parti de vrai dans tout ça, peut-être.
Et avec la répétition aussi. Hein.
Oui, alors là, mais c'est là donc aussi la limitation, la limite qui se montre. C'est tout le temps le même thème.
J'imagine qu'on peut analyser toute l'histoire de la musique différemment à partir de ce que vous dites. Hein. Soit à partir des anomalies peut-être qui peuvent arriver dans la musique, ou des dissonances, ou des passages entre différents styles musicaux. Et puis pourquoi pas concerto pour la main gauche, pour la main droite. Ça représente aussi des images différentes dans le cerveau, je ne sais pas.
Non, mais le mystère de la musique, pourquoi elle nous émeut tellement, ça resterait toujours. On pourrait jamais le traduire en algorithme, quoi qu'il soit.
Est-ce que ça pourrait produire à l'avenir aussi des musiques? Parce qu'à la limite, vous analysez, vous écoutez, enfin vous demandez aux gens d'amener de la musique, mais ça pourrait aussi produire en analysant l'effet que la musique produit dans notre cerveau ou l'écoute. Ça pourrait aussi produire un autre type de musique, pourquoi pas?
Ouais, ça sera donc une musique.
Si on touche des zones du cerveau volontairement, avec certaines notes, avec certains accords, avec certaines musiques.
Oui, mais le problème, c'est que un problème directionnel. À ce moment-là, on va donc créer une musique avec quelque chose qui se ressemble peut-être à l'intelligence artificielle. Mmh. Et ça m'étonnerait que ça donne quelque chose qui nous émeut tant que quand ça va dans l'autre sens.
Mais ça, c'est
que ça va des tripes au cerveau, c'est mieux que quand ça va du cerveau.
Il ne suffit pas de toucher les zones émotives pour produire de la bonne musique, en gros. Hein.
Non. Ce sera des cris de survie, des trucs bestiales, mais pas...
Alors voilà un nouveau genre musical, pourquoi pas.
Mais pas quelque chose un peu plus raffiné, si vous voulez.
Oui. Alors c'est ce soir hein, votre conférence, c'est à 19h à l'Unité du Four, donc à Genève, l'auditoire Piaget avec Didier Grandjean, cerveau, musique et émotion, donc vous parlerez de la musicalité humaine, et j'imagine que vous avez publié des choses récemment sur cette question-là, qu'on peut consulter, qu'on peut compléter.
Moi je travaille donc surtout sur cette plasticité où j'ai surtout une publication dont j'ai évoqué le résultat il y a un petit moment, où donc des tout petits anomalies en harmonie donnent une réaction très forte, primaire, dans ces parties du cerveau très anciennes. Mais c'est un peu limiteur de s'arrêter là, parce qu'après, par exemple, c'est aussi très intéressant de se rendre compte, il y a chez les musiciens professionnels, beaucoup d'activation motrice, même s'ils ne bougent pas du tout, ils traduisent en fait ce qu'ils entendent en pattern moteur. C'est bouger et faire de la musique, écouter et bouger, c'est devenu une seule chose, une espèce de gestalt, une espèce d'ensemble. Par exemple, je me rappelle, une fois j'étais en train de faire la vaisselle et puis j'ai entendu une pièce que j'ai jouée énième fois et tout d'un coup, mon bras il est parti à un moment où il fallait, avec l'archet, donner un accent. Oui,
c'est...
Peut-être.
Mais ne pas donc, faire la vaisselle en écoutant donc, n'importe quelle musique.
Voilà. Exactement. Il faut être prudent dans la vie. Non, mais il y a ce lien très intime qui est aussi, par exemple, une particularité. Et je suis en train de publier un autre papier où il y a eu des petites anomalies dans le rythme, où il y avait une pattern d'activation du cerveau qui était très, très différent par rapport à l'harmonie. Parce qu'on dit la musique, mais la musique, c'est multimodal. Il y a rythme, il y a mélodie, il y a harmonie, il y a timbre, il y a... Et puis, au bout du compte, ce tout, que ça émeut ou pas, je ne crois pas qu'on peut l'analyser, qu'on ne pourrait jamais comprendre exactement pourquoi.
Merci Clara James. Semaine internationale du cerveau, donc ça commence ce soir, je le rappelle, 19h avec votre table ronde. Et puis, il y aura d'autres interventions qui vont suivre là, toute la semaine. L'enfant créatif demain et autre chose
oui,
encore à
y a,
venir.
Bon, il y a Jean-Pierre Changeux hein, qui vient mercredi à Genève, donc toujours à l'Uni du Four. Et puis, la semaine du cerveau, c'est aussi à Lausanne. Et il faut signaler peut-être mercredi, ça se passera au CHUV. C'est la première journée de la narcolepsie avec des gens qui travaillent sur le sommeil.
Voilà, au sommaire de Babylone aujourd'hui, cerveau et musique à l'instant. On parlait des Balkans occidentaux en première partie, tout autre chose. Et puis demain, on parlera d'Henri Dunant. Vous voyez, il y a de tout dans cette émission de Babylone. Merci encore Clara James. Toutes les informations que vous aimeriez avoir sur cette émission sont sur babylone.rsr.ch, remis à jour quotidiennement par Nicole Corpato. Merci à Anne-Marie Rine, merci à Annick Chouin, Louisa Nazarieff et Patrick Lenoir. babylone@rsr.ch pour nous écrire. Babylone, une production de David Collin et Nicole Duparc. Dans un instant, Charles Sigel, l'humeur vagabonde, suivie d'avis d'esprit et d'entre les lignes.
Babylone avec le temps.
Vous écoutez Espace 2, il est